Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Nargis.
Bonjour Carole.
J'ai bien prononcé votre prénom ?
Absolument.
Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je précise qu'on est dans le 7e arrondissement de Paris. Chez vous, vous allez nous indiquer ce qu'est votre chez vous. Et ma première question, elle est toute simple. Vous avez accepté de participer à ce podcast Les Audacieux, j'en suis ravie et je vous remercie.
Merci de m'avoir invitée.
Cela veut dire que vous vous considérez comme une audacieuse ?
Alors, je ne sais pas si je me considère vraiment comme une audacieuse, mais en tous les cas, c'est ce qu'on dit de moi.
Ah, on dit vraiment ce mot-là ?
On dit vraiment, oui, absolument.
Et qu'est-ce qu'on dit d'autre, Nargis,
ou concernant ? On dit Nargis, c'est une fille qui ose.
Donc, vous êtes bien une audacieuse. C'est votre définition de l'audace ?
Alors, je crois que j'associe volontiers à l'audace des notions de courage, des notions d'action, des notions de réflexion, de prise de risque, sans sauter dans le vide non plus. Et je dissocie aussi le culot, par exemple. Pour moi, ce n'est pas de l'audace.
Oui.
D'être, si on dit...
C'est quoi le culot ?
Quelqu'un de culotté, c'est quelqu'un qui va faire des actions
un peu folles,
pas réfléchies.
Donc vous, c'est raisonné.
Plutôt.
Alors, quelle est votre audace du moment ?
Mon audace du moment, je crois que c'est Elose, et ça l'est depuis quelque temps.
Alors c'est quoi Elose ?
Elose, c'est une plateforme, c'est une marque, c'est un concept qui accompagne les femmes dans leur quotidien. C'est aussi quelque part mon histoire. Alors, Elose est née il y a quelques années. Je cherchais un nom pour cette plateforme, pour cette marque, pour ce projet. Et je réfléchissais avec une de mes amies, Claire, en brainstorm. Et j'étais agacée parce que je ne trouvais pas de nom.
Mais c'était, excusez-moi Nargis, parce que vous êtes sans doute audacieuse, mais vous avez surtout déjà l'art du teasing. Alors c'est quoi cette marque ? Elle sert à quoi ? Elle fait quoi ?
Alors, je vais vous dire à quoi elle sert, mais je vais d'abord vous expliquer le nom. Et donc Claire me dit, mais Nargis, tu vas trouver un nom. Regarde déjà tout ce que tu as fait et tout ce que tu as osé. Et je lui dis, en fait, elle ose. C'est exactement ça.
D'accord.
Elle ose, mais en fait, elle ose tellement qu'elle va oser l'écrire 2LO2Z.
D'accord, mais on était faites pour se rencontrer, donc.
Sans doute.
Donc, Elose, le nom est trouvé.
Le nom est trouvé. Elose, donc c'est cette marque de combinaison, un vêtement particulier. La combi, c'est pas un vêtement anodin. Pour moi, c'est une armure. C'est un vêtement de dualité. C'est un vêtement féminin, masculin. C'est un vêtement sexy et à la fois assez protecteur. J'aime cette dualité que représente la combi. Et surtout, j'aime le pouvoir que procure la combi quand on la porte.
Alors, c'est quoi le pouvoir ?
Ce pouvoir, je le vois tous les jours dans le 7e ici, rue de Grenelle, quand je rencontre ces femmes qui viennent parfois un peu timides, parfois plus assurées, et quel que soit l'âge, c'est assez extraordinaire. Une des premières clientes que j'ai reçues ici avait 83 ans. elle portait une combi et elle me dit « Je suis tellement heureuse que vous ayez enfin un lieu où on puisse essayer, discuter. » En fait, c'est ça. Hello, c'est aussi, quand je vous dis que c'est une plateforme, c'est un lieu de rencontre. Et donc, cette femme qui est arrivée ici, 83 ans, pour moi, c'était un cadeau.
Ça veut dire que la combinaison, en tout cas celle que vous avez imaginée et conçue, elle est faite pour toutes les générations.
Toutes les générations.
Donc déjà, c'est un premier point.
Ma fille, qui a bientôt 16 ans, adore et emporte jusqu'à cette dame exceptionnelle de 83
Alors,
ans.
Alors, revenons sur la notion de pouvoir.
Donc, c'est un vêtement qui donne confiance.
Pourquoi, selon vous ?
C'est un vêtement qui parce que c'est un vêtement qui intrigue. C'est-à-dire, quand on voit une fille en combinaison, on se demande toujours ce qu'il y a derrière.
C'est le pouvoir du zip.
C'est pas forcément parce que elles n'ont pas toutes un zip. Elles ont parfois des boutons ou des pressions. Donc pas du tout. C'est ce total look. C'est l'uniforme. Je pense que c'est le pouvoir de l'uniforme aussi. C'est un vêtement quand même qu'on emprunte aux hommes. C'est un vêtement qu'on emprunte à certains métiers et des métiers qui soient garagistes, qui soient pilotes, qui soient astronautes. Donc c'est des métiers qui ont aussi une histoire et c'est des métiers qui ont des objectifs bien précis, qu'on est dans une notion de raison aussi. On disait au démarrage, il y a de la raison dans l'audace. Et on retrouve aussi...
Mais alors vous avez utilisé le mot « uniforme » qui n'est pas neutre, parce que l'uniforme, ça sert aussi effectivement à faire groupe, à faire collectif, mais aussi d'une certaine façon à effacer un peu sa personnalité.
Ou à l'affirmer, ou à l'exprimer différemment.
Alors, il faut vous m'expliquer ça.
Là, on ne porte pas un uniforme traditionnel. On n'est pas dans un uniforme conformiste. Au contraire, là, on bouscule un peu les codes. La combinaison, je suis algérienne, par exemple. Quand je vais à Alger et que je porte une combinaison, ma mère, qui est une femme audacieuse et courageuse, me regarde en me disant « Tu sors dans la rue comme ça ? » ?»« Oui, maman, je sors dans la rue comme ça, en combinaison blanche, et ça va bien se passer. » Et effectivement, ça se passe bien quand je porte ma combinaison à Alger et que je marche dans la rue. On ne m'agresse pas, je me sens protégée. On me regarde, mais on me regardera aussi si je porte une robe, si je porte un foulard ou si je porte un jean. Donc ça ne change pas. Mais en revanche, je me sens protégée. Et donc c'est là où cet uniforme, c'est une forme de protection, c'est une armure, mais ce n'est pas un uniforme traditionnel. C'est un uniforme qui permet d'exprimer sa personnalité et d'exprimer sa sensibilité et sa créativité. Je vois aussi pas mal de femmes qui arrivent ici avec, et des femmes, pour certaines que je connais, des femmes de mon entourage, des amis, qui sont incapables de porter une combinaison, alors qu'elles trouvent ça joli, mais elles sont incapables parce qu'il y a aussi l'image qu'on a de soi, l'image de son corps. Donc il y a pas mal de choses qui...
Qu'est-ce qui les arrête ? Alors est-ce que c'est encore un sujet autour de la silhouette, de leur corps, d'éventuels complexes ?
Complètement.
Alors qu'est-ce que vous leur répondez ?
Moi, je leur réponds, j'essaye de les accompagner, encore une fois. Donc, je ne veux rien imposer. Ça ne sert à rien. Et parfois, j'échoue. Je réussis, pour la plupart du temps, heureusement. Mais aussi, je vis comme un échec personnel. Ces femmes, et il y en a une en particulier que j'ai en tête, qui est une amie très chère, je n'arrive pas à lui faire porter une combinaison. Elle est sublime, elle est grande, elle est élégante, mais...
Ça bloque.
Alors il y a cette histoire de confiance, cette histoire de perception de sa propre silhouette. Ce qu'on imagine être sa silhouette et ce qu'on imagine être sa silhouette dans le regard de l'autre. Il y a des jours où je n'ai pas envie de porter de combinaison parce que ce n'est pas le mood. J'ai envie d'être transparente, j'ai envie d'être dans quelque chose qui disparaît, une robe, un jean, un grand pull... Et il y a d'autres jours où j'ai envie d'être en combinaison parce que ça va être un nouveau combat, une nouvelle journée, les enfants, Hello's, etc.
Alors, vous associez la combinaison au combat, très bien. Donc, ça veut dire que vous êtes une femme combative, ça, je retiens le point. Mais je vais vous embêter un tout petit peu, Nargis. La combinaison, c'est pas toujours très pratique. Et toutes les femmes, sans que je développe davantage, savent très bien de quoi je veux parler. Donc, qu'est-ce que vous leur donnez comme élément ? Et puis, est-ce que vous avez trouvé une solution ?
J'ai pas trouvé de solution. Et...
Vous m'avez donné un petit truc tout à l'heure qui est, qui est plutôt très astucieux.
Non, c'est évidemment une question qui revient très souvent. D'ailleurs, j'ai acheté un petit livre qui est sur une table posée, ici rue de Grenelle, dont le titre est « Où faire pipi à Paris ?». Donc, c'est bien. Un premier sujet, une première façon de traiter ce sujet de « et comment je fais pour aller aux toilettes quand je suis en combi ?» Eh bien, on fait comme si on portait un pantalon. Moi, je porte toujours, sous ma combinaison, un débardeur, un caraco, un petit t-shirt,
pour pas se retrouver, avoir
chemisier.
Un sentiment de nudité.
Exactement. Et au-delà de ça, c'est très joli de super... Enfin, moi, je trouve que c'est joli de superposer les couches. Bon. Et donc, je ne me retrouve jamais nue quand je vais aux toilettes en combinaison. Au-delà de ça, j'ai fait faire par un jeune graphiste, Félix, un dessin animé pour montrer, pour aider les femmes et leur montrer comment faire pour que les bras ne traînent pas, enfin les manches ne traînent pas par terre. Donc voilà, on a une petite technique pour glisser les manches dans le pantalon de la combinaison.
D'accord, donc il y a un petit savoir-faire à adopter, si je puis dire.
Exactement, et je pars du principe, encore une fois, et je cite cet exemple très souvent, cette femme de 83 ans qui porte des combinaisons, ça ne lui pose pas de problème.
Mmh. Mmh. Donc on doit s'adapter.
Il y a une forme d'agilité.
Voilà, une forme d'agilité. Bon, en tout cas, c'est un joli défi à relever pour un résultat très beau, parce que moi, j'ai parcouru vos collections, votre collection, avant que nous ne démarrions ce podcast, et j'ai vu plein de choses très créatives. Donc justement, parlez-nous un petit peu avec vos mots et avec vos yeux de ce que vous créez et comment, effectivement, vous réinventez aussi cette combinaison.
Alors, la combinaison, donc c'est, j'imagine toujours un look. C'est soit une combinaison, par exemple la garagiste qu'on va retravailler pour la rendre sexy, plus féminine, mais aussi j'adore le jean. J'adore mettre un jean et j'adore mettre un chemisier. Donc, j'essaye aussi de combiner ce haut et ce bas et le transformer en combinaison, créer un peu une illusion. Et j'ai pas mal de modèles comme ça qui sont nés ces dernières années d'idées de total look, de combinaison d'un haut et un bas pour donner vie à une combinaison, un seul vêtement. C'est un côté très pratique, c'est-à-dire moi, quand j'imagine des modèles, c'est soit je m'inspire de femmes, donc par leur élégance, par ce qu'elles sont, etc. Ou alors je me dis qu'est-ce que j'aimerais moi aujourd'hui dans ma garde-robe. Je tire un cintre et je suis habillée.
C'est assez masculin ça comme réflexe, mais on y reviendra aussi.
Le côté un peu pratique. J'ai un côté pratique, mais je ne sais pas si c'est masculin, mais en tous les cas, c'est notre vie d'aujourd'hui. Quand vous démarrez très tôt, il faut que ce soit simple. On a tellement d'exigences pour nous et on a des exigences envers nous que les choses doivent aller aussi assez vite. J'ai pas envie de me négliger, j'ai pas envie de négliger mon entourage, j'ai pas envie de négliger ce que je fais. Donc, mais le matin, quand je m'habille, je dois penser d'abord déposer mes enfants à l'école, aller au bureau, rencontrer des fournisseurs, avoir des réunions, etc., etc. Et peut-être sortir le soir.
Mais voilà, donc une vie
très remplie. Qu'est-ce qui va m'accompagner ?
La combinaison. Alors, on revient quand même, racontez-nous quand même encore, parce qu'on n'a pas les images. C'est quoi les couleurs, c'est quoi les matières ?
Alors, le concept d'Eloz est aussi un concept éthique. Toute la fabrication est faite à Paris, et avec mon équipe, j'essaye d'impliquer. Donc, toutes mes collaboratrices, nous ne sommes que des femmes, quelle que soit leur responsabilité dans la création. C'est un travail collectif. J'ai des idées, mais Marie-Laure a des idées, Carole a des idées, Samira a des idées, on a toutes des idées. Donc j'essaie d'impliquer tout le monde pour nourrir les futures collections. On travaille sur un concept de capsule, qu'on fait des petites séries, qu'on fabrique à Paris, et on crée notre plan de collection, et ensuite c'est comme quand je prépare un dîner. Je vais au marché, je sais que j'ai une envie, j'ai envie de poisson, j'ai envie de viande, mais je ne sais jamais ce que je vais trouver, ça va dépendre
de ce qu'il y aura sur les étals.
Exactement. Oui. Donc quand je vais acheter mes tissus, c'est pareil. J'ai en tête, j'ai des envies, et parfois je rentre bredouille, et c'est catastrophe, parce que ça nous ralentit dans notre fabrication, et parfois c'est inespéré, on va trouver des pépites, et comme là d'ailleurs, bientôt on va en sortir quelques-unes. L'année dernière, j'ai fait une combi saharienne avec un stock dormant de chez Yves Saint Laurent, et c'était sublime.
J'imagine, très bien.
Hélas, on n'en a pas eu assez.
Bon, bah oui, c'est, mais c'est oh, la loi du marché, on va le dire comme ça.
Exactement. Donc les couleurs, ça dépend. Je ne suis jamais les tendances. Mm-hmm. C'est encore une fois, je fais confiance à mon envie, à mon intuition. À, voilà.
Entre le moment où vous trouvez le tissu et le moment où on a une jolie combinaison sur un cintre dans votre boutique, il s'écoule combien de temps ?
Ça dépend. C'est la magie aussi de la fabrication à Paris. Ça peut être, ça dépend des quantités, ça dépend de la complexité, de la combinaison.
En moyenne.
Mais en moyenne, un mois.
D'accord. Donc c'est un circuit très rapide.
Très rapide.
On n'est pas, c'est pas dans des conteneurs bloqués entre la Chine et la France. Et jamais.
Non. Alors, ça a certaines contraintes aussi économiques, mais c'est un choix que je fais aujourd'hui. On verra si mon pari est bon ou pas. Mais en tous les cas, c'est un choix que je fais encore une fois. Je respecte cette éthique qui m'est chère et pour l'instant, je n'en déroge pas.
D'accord. Donc ça veut dire que vous avez quand même une clientèle, je dirais, plutôt haut de gamme. On peut le dire comme ça, c'est un choix que vous avez fait. Votre aventure, elle a démarré il y a combien d'années et quelles sont les évolutions ou vos perspectives ?
J'ai alors une clientèle, oui, assez haut de gamme. Hélas, j'ai des marges qui sont assez éloignées des standards du marché, mais c'est encore une fois un choix. Mm-hmm. Mais j'essaye quand même d'avoir des combinaisons avec une entrée de gamme abordable. Alors c'est vrai que je ne fais pas de soldes non plus, donc j'ai des prix qui sont juste tout au long de l'année. Après je peux aussi avoir des actions de fidélisation, mais et puis je peux aussi dans certains cas proposer, mais on en parlera peut-être plus tard, des combinaisons en prêt. Parce que c'est aussi mon devoir et c'est une mission que je me fixe d'aider.
D'accord. Donc, vos ambitions, allez, on va dire pour les 3 années à venir.
Alors, pour les 3 années à venir, poursuivre cette aventure exceptionnelle d'Elos, développer peut-être. Là, aujourd'hui, on est présent sur le marché français, mais j'adorerais aller ailleurs.
Alors ailleurs, c'est où ?
Ailleurs, c'est les États-Unis. Mmh. Ailleurs, c'est le Moyen-Orient. Mmh. Ailleurs, c'est l'Europe. On a déjà un terrain de jeu assez exceptionnel en Europe. Bon. Donc ça, c'est un premier axe. J'aimerais aussi développer une plateforme, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais d'entraide pour ces femmes justement qui ont besoin d'être accompagnées dans leur vie, qui ont besoin d'avoir, qu'on booste leur confiance, qui ont ces femmes qui ont des vies pas toujours faciles, mais qui sont des femmes courageuses, des femmes ambitieuses, j'ai envie de les aider. C'est mon côté altruiste. Et pour ça, j'ai envie que Elos devienne autre chose qu'un vêtement. C'est-à-dire, là, il y a peut-être une notion de coaching, j'ai envie de m'associer peut-être à des écoles ou peut-être à des universités, à des associations. Et je commence au-delà de réfléchir, c'est-à-dire peut-être à professionnaliser ce que j'ai pu faire de façon encore trop anecdotique et pour pouvoir aider davantage.
Alors, pour qu'on vous comprenne bien et qu'on comprenne bien votre cheminement, racontez-nous quand même un petit peu qui vous étiez avant Elos, ce que vous avez fait, quelle est votre histoire ?
Alors, mon histoire, je suis algérienne, je suis née à Constantine, j'ai grandi entre Constantine et Alger, je suis arrivée à l'âge de 16 ans en France, arabophone. Je suis arrivée dans les années 90 au moment de l'explosion du terrorisme en Algérie mon père a été assassiné en 88. J'ai eu la chance, je crois, d'avoir une mère très courageuse, fonceuse, une femme de l'action qui nous a sauvé la vie, je crois, tout simplement. Donc,
en partant, en décidant de partir, en quittant l'Algérie.
Quittant l'Algérie. Et je crois que cet événement tragique de mon enfance m'a donné une certaine force pour avancer dans la vie. Et donc tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec. En respectant qui j'étais, en respectant mes valeurs, en donnant du sens à ma vie. Voilà. Donc mon parcours, c'est un peu comme un mur d'escalade. Et je lâche une avant de lâcher une prise, j'ai besoin de bien visualiser là où je vais mettre ma main ou mon pied. Parfois, j'ai des moments qui sont plus cool, hein, plus souples que d'autres, hein, toujours dans ce mur d'escalade. Hein, y a des prises qui sont plus faciles et parfois, ça me permet de me reposer un peu. Et parfois, c'est plus compliqué. Mais, j'arrive à l'âge de 16 ans, des années difficiles. Je commence par faire des études scientifiques.
Oui.
J'échoue à faire médecine.
Oui.
Bon, j'avais...
C'est pas facile, hein, faut le dire.
C'est pas facile, c'est pas facile. Et puis, c'est vrai que j'avais de grandes lacunes en français. Voilà, et ça restera un échec. J'avais très envie d'être médecin, d'être chirurgien.
Bon. Mais bon.
J'ai fait autre chose et j'aide les gens différemment. Donc, j'ai fait chimie et mon premier job... Après la chimie, après la recherche fondamentale en physico-chimie des polymères, ça a été la mode. J'ai eu très vite envie de quitter la chimie parce que je suis une passionnée par la mode. Je suis une passionnée par le vêtement. J'adore le pouvoir du vêtement et j'observe depuis très longtemps, hein, très jeune, ce pouvoir qu'a le vêtement sur les gens, sur la perception qu'on a de l'autre, sur sa propre image. Et je crois que dans ma famille aussi, les femmes de ma famille accordent une importance particulière aux vêtements. Et petite anecdote, ma grand-mère maternelle faisait des robes traditionnelles à Constantine, des grandes robes de cérémonie en velours brodées d'or. Et j'ai vécu avec cette grand-mère.
Dans cet univers de créativité et puis de mode, je veux dire, de sublimation de la femme.
Exactement. Mmh. Et je crois qu'on est aussi dans une... Je viens d'une culture où la sublimation de la femme a une place très importante.
Et nécessaire. Vous l'avez dit avec vos mots. On est bien d'accord.
Donc, mon premier job après la chimie, c'est la mode. Et j'accompagne un créateur de robes de mariée haute couture. Je n'y connais rien, je sais faire des équations et pas du tout et rien d'autre. Il m'a fait confiance et il m'a énormément appris. Alors j'adore apprendre. J'adore apprendre par l'expérience ou dans des cadres plus académiques. Je suis retournée après quelques années de nouveau à l'école où j'ai fait un master, l'ESCP. J'ai consolider des acquis et de l'expérience.
Ça peut être utile.
Ça peut être exactement. J'ai travaillé pas mal d'années dans le marketing, la cosméto, le digital.
Tout ça est aussi très utile.
Très utile. Et en fait, tout ce avec le recul, quand je me retourne aujourd'hui, je me dis que les choses n'arrivent jamais par hasard.
Et oui.
Tout ce que j'ai fait depuis m'est utile aujourd'hui.
C'est une jolie forme de conclusion, si je puis dire. Alors, avant de se quitter, parce que le temps passe très très vite avec vous, Nargis, et merci pour ce très beau témoignage, parce qu'on parle beaucoup de résilience, un mot qui est devenu très galvaudé, très à la mode, etc. Mais vous êtes quand même un bel exemple de cette résilience-là. Et vous l'avez dit, vous avez des belles perspectives aussi très humaines, même si la mode en est déjà une, hein, comme vous l'avez très bien développé. Est-ce qu'il y aurait un point qu'on n'aurait pas évoqué qui vous tient particulièrement à cœur en termes de conclusion de cet entretien ?
J'ai peut-être envie de passer un message à toutes, à ces femmes aujourd'hui, d'ailleurs.
Eh ben oui, ça tombe bien, on précise, on est le 8 mars.
Un message d'espoir, parce que dans l'audace, il y a aussi de l'espoir. À toutes ces filles, quand je me retourne sur mon parcours, je me dis que tout est possible avec de la résilience, avec de la persévérance, avec du travail et surtout avec de l'envie. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut ne pas hésiter à se faire aider. Moi, c'est un socle de ma vie, c'est d'aider les autres. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à la porte. Moi, je reçois des femmes ici et c'est un message que j'ai envie de donner. Venez nous voir, on est là pour vous aider.
tout cas, je peux témoigner du fait que vous avez une jolie boutique très accueillante, effectivement, avec un joli espace, des petits canapés partout, une jolie table. Alors, je ne sais pas si vos clientes viennent jusqu'à l'endroit où nous sommes, mais en tout cas, tout est fait, effectivement, pour que la parole circule. Ça, je peux le dire, voilà. En tout cas, merci infiniment, Nargis, pour cette belle rencontre.
Ça fait
beaucoup de bien de vous rencontrer, et puis ça donne beaucoup d'énergie, et c'est le but des audacieuses, donc ça tombe bien. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.